Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph, le 27 janvier 1987.
Saint-Jean demeure pour nous. C'est important pour nous découvrir la manière dont Jean a vécu tout cela. Le vécu contemplatif de Jean qui nous est donné à travers son évangile. Ça nous fait bien comprendre tout l'aspect doctrinal présent dans la contemplation. Faut pas séparer la contemplation de la doctrine. Mais il faut comprendre que c'est du vécu dans l'amour. Mais la doctrine, comprenez bien, la doctrine, ce n'est pas les conclusions théologiques. La doctrine, c'est que Jésus est la vérité. C'est que Jésus est la vie. La doctrine, pour nous, c'est une personne. On ne contemple qu'une personne. C'est pour ça qu'on contemple le mystère. Le mystère, c'est le mystère des trois personnes divines. Et si vous êtes attentif à ce que Jésus dit à Nicodème, vous voyez bien que Jésus veut conduire ce théologien à la contemplation. C'est pour ça que pour nous c'est si important. C'est Jésus lui-même qui nous conduit à la contemplation. Il le met tout de suite devant le mystère fondamental. Naître dans. C'est impératif, ça. Là, c'est pas une conclusion, c'est une naissance. Naître dans de l'esprit et de l'eau. Alors, on n'a pas le droit d'être dans une espèce de passivité absolue. Ce ne serait plus la naissance de l'esprit et de l'eau. Naître de l'esprit et de l'eau, c'est naître à partir de l'Esprit Saint. Il nous dit ensuite, c'est pour essayer de comprendre un peu ce qu'est la contemplation telle que Saint Jean nous la montre. Il nous dit ensuite, nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Tout le mystère de l'incarnation. Au-delà des conciles, revenons à cette affirmation de Jésus. Puisque les conciles précisent l'évangile pour nous. Et de même que Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. L'Esprit Saint se sert de l'humanité sainte de Jésus et de l'humanité sainte de Jésus élevée sur le bois. L'humanité sainte du Christ à la croix, c'est la source de notre grâce. L'humanité sainte de Jésus précise les théologiens est instrument conjoint, comme dit saint Thomas, de la grâce. Et donc l'instrument ne fait pas nombre avec la cause principale. C'est donc le Verbe de Dieu qui, à travers l'humanité sainte de Jésus, est source de grâce pour nous, source de cette naissance. Et allons plus loin. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, l'unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, toujours la vie éternelle, une naissance à la vie éternelle, c'est ça qui est étonnant. Or, une naissance à la vie éternelle, c'est la contemplation. Si vous voulez comprendre les deux, naissance à la vie éternelle, c'est la contemplation. Eh bien, j'allais dire, au-delà d'humanité sainte de Jésus, on découvre la source première, le Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, l'unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous avez donc toutes les sources de la grâce. Voyez qu'on est dans blesser l'agneau. La grâce provient du Père. La grâce provient de l'eau, Marie, et notre bonne volonté. Cinq causes, si j'ose dire, qui coopèrent à la contemplation. Ça, c'est très, très beau. C'est le plus beau traité de la contemplation, ça. De voir que la contemplation nous fait naître dans la très sainte Trinité. Nous naissons dans la très sainte Trinité. Nous naissons porté par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est comme une mère. Porté par l'Esprit Saint et par Marie. Nous naissons dans le cœur blessé de l'agneau, dans la lumière du Verbe. Nous naissons dans le Père. Et notre bonne volonté est présente. Voyez, je crois que cela nous fait comprendre que la contemplation, c'est ce regard d'amour. Je vous ai déjà dit, le cœur profond implique la lumière divine. Et donc ici, nous voyons bien cette contemplation qui est un regard. C'est notre intelligence transformée par la foi, par une foi vivante, tout aimant, qui est sous la mouvance de l'Esprit Saint, puisqu'il s'agit de naître de l'Esprit Saint, et sous la mouvance de l'Esprit Saint et des dons du Saint-Esprit, nous avons conscience de naître de l'Esprit Saint. Il faut demander cette grâce. L'Esprit Saint veut nous la donner, d'avoir cette expérience intime, contemplative, de naître de l'Esprit Saint actuellement, de naître dans la lumière du Verbe qui se donne à nous à travers la blessure du cœur de l'agneau, de naître du Père. Nous naissons à cette vie divine sous le souffle de l'Esprit, dans la lumière du Verbe incarné, dans la lumière du cœur blessé de l'agneau. Et nous naissons in sinu patris, dans le sein du Père, auprès de Marie, avec elle. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est avec elle. On est comme des jumeaux. On est avec elle à la vie divine. Et Marie nous fait comprendre. Notre naissance est toujours accompagnée de celle de Marie. Et celle de Marie est toujours accompagnée de la nôtre. Et c'est merveilleux de naître avec elle. Et c'est elle qui nous donne cette bonne volonté. Vous voyez la contemplation vivre des trois personnes divines. Vivre dans la lumière du Verbe incarné. Vivre de cette attraction du Père. Vivre tout proche de Marie. Vivre de notre bonne volonté. Je crois que cet enseignement de Jésus à Nicodème nous lie ce que Jean a reçu. Il l'a reçu, ça. Et pour lui. Ce qui était vrai pour Nicodème était vrai pour Jean. Et ça reste vrai pour nous. Il ne s'agit pas d'une méditation psychologique. Ça, c'est la naissance selon la chair et le sang. Il ne s'agit pas d'une méditation intellectuelle, de théologie scientifique. C'est encore humain, ça. C'est très beau, c'est très l'Esprit-Saint ne peut pas nous être donné sans qu'il lui-même nous éclaire de cette mission. Parlait-on de sagesse et d'intelligence? Naître à cette vie de l'Esprit, du Fils, du Père. Oui, il faudrait qu'à partir de cet enseignement de Jésus, qui est le grand enseignement doctrinal, c'est doctrinal ça, tout est résumé là, tout est présent, toute la théologie, puisque on est présent à quelqu'un dans la mesure où on agit sur lui. La très sainte Trinité nous communique la grâce, elle est présente au plus intime de nous par la grâce, par la charité. Et Jésus fait tout de suite comprendre à Nicodème le drame du péché. Qu'est-ce qui arrête la contemplation? La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Une question de préférence. C'est ça qui arrête et qui empêche la contemplation. On préfère les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce qu'on aime mieux ses œuvres. Les œuvres risquent toujours de nous séduire. Nos œuvres, ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons est plus beau que tout le reste. C'est bien évident, puisque c'est nous qui le faisons. Et que nous ne sommes pas des imbéciles. Et même si on est des imbéciles, la grâce de Dieu nous permet de faire des œuvres plus belles que tous les autres. Alors, c'est glorifier Dieu. Et alors, si on considère que nos œuvres, c'est quelque chose de primordial, on s'enferme dans les ténèbres. Vous voyez, on corrompt même l'œuvre de Dieu en nous, en préférant nos œuvres. Parce qu'il y a l'orgueil et la vanité. Les gens aiment qu'on parle de nos œuvres et on aime d'en parler. Alors évidemment, chez vous, c'est encore à l'état embryonnaire. Mais vous verrez un jour, ce ne sera plus à l'état embryonnaire. Et alors on aime de s'arrêter à ça. Et à ce moment-là, la lumière n'est plus première. Question de préférence, c'est ça qui est très très beau, le péché. On préfère les ténèbres à la lumière parce que nos œuvres sont mauvaises. Mais tout homme, en effet, qui connaît le mal, déteste la lumière. Et ne vient pas vers la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Donc c'est dit avec beaucoup de netteté. Alors on comprend très bien ce que le Saint-Père a tellement insisté dans son encyclique sur l'Esprit-Saint, en reprenant du reste ce que Saint Jean dit, ce que notre Seigneur disait dans l'Évangile de Saint Jean. Que plus l'Esprit-Saint est présent en nous, plus on a horreur du péché. Une sainte horreur du péché. Qui arrête, qui englue et qui nous met dans les ténèbres. Mais plus on a soif de lumière, plus on a soif de vérité. Alors on ne peut plus tolérer d'être englué par les ténèbres, d'être arrêté par les ténèbres. Et c'est un repliement sur soi. Tout repliement sur nous nous arrête au point de vue de la contemplation. Parce que la contemplation implique justement cette sortie vers le mystère qui nous est donné, le Père qui nous est donné, le Fils qui nous est donné, l'Esprit-Saint qui nous est donné. Alors il y a un dépassement qu'il faut réaliser dans cette attitude extatique. C'est tellement important ça. Oui, il faut avoir soif de contemplation. Il faut jamais dire c'est pas fait pour moi. Ah, moi j'ai un tempérament actif. J'en ai fils du tonnerre. J'ai un tempérament actif. Ça. J'aurais été très étonné de rencontrer Jean, parce que on a fait les figures de Jean, mièvre, sans aucun caractère. Alors que c'est pas ça du tout, Jean. Jean, c'est quelqu'un qui en veut. Ça, c'est sûr. Et qui a un désir ardent. Le royaume des cieux est donné à ceux qui sont violents de cette sainte violence. Alors, je crois que ça, c'est très important pour nous de comprendre. J'ai demandé, la sagesse m'a été donnée. Ça nous prépare à Saint Thomas, ça. J'ai demandé et la sagesse m'a été donnée. Et c'est vrai, on doit demander la sagesse. On doit la demander. On doit demander la contemplation. On doit la réclamer. Chacun d'entre nous, nous sommes faits pour la contemplation. Et on est à l'aise que dans la contemplation. Et tout se comprend dans notre vie chrétienne que dans la lumière contemplative. Autrement, on ne comprend rien et on vit dans les ténèbres. Alors c'est très très important ça, de se rappeler ça constamment. Et ne disons pas, j'ai pas un tempérament contemplatif. C'est très faux de dire ça. Personne d'entre nous n'avons un tempérament contemplatif, puisque la contemplation est divine et qu'elle provient de la grâce divine. Et que c'est une participation à la vie divine de la très sainte Trinité. Alors, à la rigueur, on pourrait dire que j'ai un tempérament philosophique. Quoique, je ne crois pas qu'il y ait un tempérament philosophique. Il y a un tempérament pilieux. Il y a un tempérament, hein, on sait bien, sanguin. Mais le tempérament philosophique, il est quoi, hein? Le cocktail de tous les autres tempéraments, si vous voulez. Puisque c'est un mixte qui est plus parfait que les autres. Il n'y a pas de tempérament philosophique, ça n'existe pas. Parce que l'intelligence est au-dessus du psychisme. Si l'intelligence est au-dessus du psychisme, mais bien plus fortement la grâce, elle est dans du Saint-Esprit. Elle est dans du Saint-Esprit, elle nous met au-dessus. C'est le prologue de Saint Jean. Qui nous montre bien ça, ceux qui sont nés de Dieu. Et la contemplation, c'est naître de Dieu. C'est donc naître dans la lumière de Dieu. Ça, c'est très important de comprendre cette soif qu'on doit avoir de vérité en vue de la contemplation. Les deux se tiennent. L'évangile de Saint Jean qui doit nous aider à comprendre le cœur de Saint Jean. Après cela, Jésus vint avec ses disciples en terre de Judée. Et là, il séjournait avec eux et il baptisait. Jean aussi était à baptiser à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et les gens se présentaient et ils étaient baptisés. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Il y eut donc une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Toujours discussion liturgique. Et ils vinrent vers Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. » Et tous viennent vers lui. Ça, c'est une concurrence déloyale. Et les disciples de Jean ne peuvent pas accepter ça. C'est les querelles de clochers. On sait très bien ce que c'est. On arrive dans une paroisse, le curé de la paroisse avant a refait un nouveau clocher un peu plus haut que le précédent. Alors il faut nécessairement que le clocher du curé qui arrive soit plus haut. Et ainsi de suite. C'est curieux, cette espèce de rivalité, une rivalité constante. On a une peine énorme de dépasser ça. Alors on voit très bien, les disciples de Jean-Baptiste sont en dans un état de tentation, de jalousie. Ça arrive aux gens très bien. Celui qui n'a jamais été tenté de jalousie, c'est dommage. Parce que ça prouve qu'il n'est pas très spirituel. Vous comprenez bien, ça prouve qu'il n'a pas un grand désir. Tandis que c'est forcé qu'on soit tenté, je ne dis pas péché, mais tenté de jalousie. On a toujours à côté de soi un novice plus parfait que nous. Tellement plus gentil, tellement plus parfait. Il garde le silence merveilleusement. Dès qu'il est à la chapelle, il est presque en extase. Et... Tandis que nous, on a une peine énorme. On souffle d'un déclic extraordinaire. Il y en a toujours un comme ça dans tous les noviciats. Il faut bien, parce qu'il faut bien que le Seigneur purifie les autres. On ne sait jamais c'est qui exactement, tu vois. Parce que pour, c'est pas le même pour tous. Permettre qu'ils écoutent les confidences, c'est pas le même pour tous. Ça vient d'extraordinaire. Il y en a 6, 10 qui sont élus de Dieu, puis 10 qui tournent, mais qui regardent les différents. C'est extraordinaire. Ça, c'est la jalousie. On est tous jaloux de tel ou tel. Et on ne sait pas pourquoi. C'est ce qu'il y a de mieux. On ne sait pas pourquoi. Les atomes crochus jouent d'une drôle de façon là-dessus. On voit très bien ici la crise de jalousie. Hein. Celui qui n'a jamais connu la tentation de jalousie, ça prouve peut-être qu'il est en plein dedans. Là, avis aux amateurs. Tandis que celui qui lutte contre la jalousie, mais c'est peut-être très méritoire. Et Dieu lui donnera une pauvreté très grande. Parce que vous comprenez très bien que c'est la béatitude des pauvres qui corrige de la jalousie. Si on était radicalement pauvre, comment on serait heureux de voir ce petit novice qui prie avec tant de ferveur? Comment on serait heureux de voir ça? C'est merveilleux. Dieu a mis à côté de moi un saint pour me sanctifier, c'est évident. Il a mis à côté de moi un saint. Il a bien choisi, c'est pas étonnant. On a presque envie de dire que je le méritais un peu d'avoir ce petit saint à côté de moi. Il a mis ça, c'est extraordinaire. Alors ce qui est extraordinaire, c'est l'attitude de Jean-Baptiste. Hein. Un père-maître extraordinaire, Jean-Baptiste. Rude. Pas commode. C'est un permettre qui prend l'âge de temps en temps. Alors on a peur d'entrer chez lui, parce qu'on a peur de ça. Jean répondit et dit, un homme ne peut rien prendre qui ne lui ait été donné du ciel. Vous-même témoignez que j'ai dit, je ne suis pas moi le Christ. Je suis envoyé devant lui. Celui qui a l'épousé et l'époux. J'entends. Celui qui a l'épousé et l'épouse, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Il ne jalouse pas l'épousé. Il ne jalouse pas l'épouse. Il est l'ami de l'époux. Vous voyez le truc du Saint-Esprit. Devenez l'ami de l'époux. Et vous pourrez alors voir toute la jalousie de l'époux à l'égard de celui que vous jalousez. Ça, c'est merveilleux. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un, semble beaucoup plus pieux que vous, beaucoup plus saint que vous, beaucoup plus intelligent que vous, beaucoup plus beau que vous, beaucoup plus séduisant que vous, beaucoup plus de tout ce qui peut y arriver, tout ce qu'on peut voir en vie commune. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout de suite le dire à Jésus. le regarde, alors on devient l'ami de l'époux. Et quand on le regarde comme Jésus le regarde, on est heureux d'entendre la voix de l'époux. Ça, c'est la grande victoire contre la tentation de jalousie. On est heureux d'entendre la voix de l'époux. De l'époux pour l'épouser. On est heureux, ça. On est dans la joie. Il est ravi de joie à la voix de l'époux. Il fallait inventer ça. Et tant que Jean-Baptiste l'a dit, c'est merveilleux. On comprend très bien. Dieu suscite, du moins permet certaines tentations de jalousie pour que notre charité fraternelle s'intensifie, pour qu'on devienne l'ami de l'époux à l'égard de celui dont on est jaloux. Et on n'y avait pas pensé avant. Tandis que là, on commence à devenir. Et dès qu'on devient l'ami de l'époux à l'égard de l'époux, alors, il n'y a plus de danger. Jésus nous transforme. On devient l'ami de l'époux. Faites ça, vous verrez. C'est un moyen extraordinaire. Et je crois que c'est le seul. Parce que la jalousie, c'est pas commode à enlever. Hein. La jalousie, elle est fille de l'orgueil. Ça, c'est sûr. Parce que on ne tolère pas qu'un autre puisse avoir quelque chose que nous n'avons pas, ou que nous avons l'impression de ne pas avoir, ou que les autres ne voient pas. Parce que quelquefois, c'est ce qui se passe. On accuse les autres de ne pas voir combien nous sommes supérieurs à celui que les autres aiment. Oui, ça arrive. Alors à ce moment-là, il faut justement se mettre dans la lumière de Jésus. C'est donc ma joie, la mienne, et elle est en plénitude. Il faut que celui-là croisse et que moi je diminue. Voyez l'humilité qui vient immédiatement pour corriger toute la jalousie. Il faut qu'il croisse, il faut que Jésus prenne toute la place. Et si Jésus prend toute la place, il n'y aura plus possible. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Et terrestre aussi son langage. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ce qui a vu et entendu, c'est de cela qu'il témoigne et son témoignage, nul ne le reçoit. Celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est vrai. Celui que Dieu a envoyé parle en effet le langage de Dieu. Car Dieu ne donne pas l'esprit. Car Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit en le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est très fort ça. Vous voyez comme c'est proche des paroles de Jésus à Nicodème. Avec la seule différence, c'est qu'il y a encore une petite saveur de l'ancienne alliance. C'est Jean-Baptiste. C'est très curieux et c'est très beau à mettre en parallèle. Alors je crois que nous pouvons dire que Jean, qui est le disciple bien-aimé, quand on est le disciple bien-aimé, on peut être jaloux de personne. C'est bien évident, si on est le disciple bien-aimé. Mais le disciple bien-aimé sait que tous les disciples du Christ sont des disciples bien-aimés. Donc il peut encore y avoir de la jalousie parmi les disciples bien-aimés. La jalousie, ça s'infiltre partout. Au point de vue intellectuel, au point de vue sensibilité, au point de vue affectif. Elle a une saveur plus affective, c'est sûr. Mais elle s'infiltre partout comme l'orgueil. De sorte que c'est impossible à enlever, nous. On doit supplier Jésus de l'enlever, dès qu'on s'en aperçoit. Le Père Dour me disait, tu verras dans ta vie apostolique comment la jalousie divise les communautés. Et pour lui, c'était très net. Toute division dans une communauté provenait de la jalousie. S'il n'y avait pas de jalousie, il y aurait l'unité. Oh, c'est quelquefois très subtil. Mais je crois que c'est très très vrai. Que la jalousie divise. Et elle peut aller jusqu'à tuer son frère. Alors, je ne dis pas nécessairement avec un couteau ou un revolver. Mais le tuer par la langue. On a toujours un petit poignard à notre disposition. Et la langue tue admirablement la renommée de quelqu'un. Et on arrive très facilement, quand on n'est pas bête, on arrive très facilement à saper la réputation de quelqu'un. Par le point de vue de la langue. C'est ça, mettre Joseph dans le puits. C'est ça, tuer son frère. C'est ça, l'écarter pour que il ne nous gêne plus. Alors là, c'est se laisser aller à la tentation. Jean-Baptiste nous donne le remède pour lutter contre la tentation. C'est de comprendre tout ce qu'il y a de bon en nous vient de Jésus. Que tout ce qu'il y a de bon en celui que nous jalousons vient de Jésus. Qu'il s'agit donc de l'aimer comme Jésus l'aime. Et alors à ce moment-là, dès qu'on l'aime comme Jésus l'aime, il n'y a plus aucun enjeu. Jean, qui a eu un sens si aigu de la charité fraternelle, premier épître, qu'il a vécu pleinement la charité fraternelle. Jean comprend par le fait même ce qui brise la charité fraternelle, c'est la jalousie. Il faut demander la grâce d'être lucide par rapport aux tentations de jalousie et avoir le courage de le dire en confession et le courage de le dire quelquefois aussi quand on ouvre son cœur au point de vue de la direction spirituelle. De dire qu'on est particulièrement vulnérable de ce côté-là. Et dire un peu comment on peut devenir l'ami de l'époux. Parce que tout est là. Devenir l'ami de l'époux. Parce que c'est très important. Vous voyez ça, je suis persuadé que Jean a senti très fort. Il a senti, je crois, le grand drame de la vie apostolique des douze, la jalousie de Judas à l'égard de Jean. Je suis persuadé que Jean a senti ça d'une façon tout à fait particulière et qu'il nous met dans son évangile. C'est la jalousie qui écarte celui qui nous gêne. Et si on ne fait pas grande attention, alors à ce moment-là, on est capable des pires choses. Ça, c'est vrai, on est capable des choses les plus effrayantes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Il ne faut pas avoir peur, hein, de toute façon, invraisemblable, mais il faut savoir ça. Que la jalousie divise les communautés. Je vous affirme, quand on regarde un tout petit peu, ce qui divise les communautés, c'est la jalousie. On ne le dira jamais, hein, jamais. On dira que c'est des questions d'idées. Très bien. On dira, oh, c'est des gens très peu intellectuels qui disent ça. Alors on dit, tiens. Vous êtes passionné pour des idées, soudainement. Alors que vous n'avez pas l'air d'être tellement passionné pour des idées. Mais qu'est-ce qu'on cache ? C'est pas beau dire qu'on est jaloux. c'est toujours un petit peu un cœur étriqué. Si on était magnanime, on ne serait pas jaloux. On serait heureux qu'il y en ait d'autres qui passent devant nous. Voyez, les effacements dans la très sainte Trinité. Le Père qui s'efface devant le Fils qui s'efface devant l'Esprit Saint qui s'efface devant Marie. Marie qui s'efface devant Pierre, devant l'Église, devant Jean. Tous les effacements, c'est justement l'inverse de ce que la jalousie met en nous. Parce qu'elle veut écarter. Il n'y a pas à dire l'homme jaloux veut écarter. Et je crois qu'il faut être très, très attentif là-dessus. Et dans nos jugements sur nos frères, et comprendre que l'unité dans l'Église, l'unité dans nos communautés, le démon sait très bien comment diviser. Il a divisé depuis le début. Donc il sait très bien comment diviser. Et divise par ses jalousies. Les jalousies souterraines, pas belles à dire, pas drôles à vivre. Et on peut lutter, il ne faut pas dire du tout, je ne veux pas lutter. Évidemment, on peut aider peut-être certains tempéraments plus jaloux à le devenir moins. Ça, je crois que c'est possible. On peut aider, parce qu'il y a des questions de tempérament un peu. C'est pas étonnant, tous les défauts sont liés à nos tempéraments. Hein. Pas la grâce, mais nos défauts, c'est sûr. Et nos tentations, c'est bien évident. Tempérament particulièrement susceptible, particulièrement affectif, particulièrement sensible, mais ils sont particulièrement, évidemment, des proies à la jalousie. Alors il faut se connaître là-dessus. Il faut connaître aussi ses frères. Parce que si vous voyez que l'un est terriblement jaloux, ne provoquez pas la jalousie. Soyez suffisamment gentil pour éviter de le mettre en état de jalousie. Ne dites pas chaque fois que vous arrivez, ah, voilà tout ce que j'ai fait, toutes les conquêtes possibles, imaginables. Non, surtout pas, d'abord c'est pas très humble. Et puis surtout, ça met l'autre en état de jalousie. Oh, faut pas être complice du démon. Faut pas être complice du démon. Et ça, il y a un petit peu une question d'intelligence. La charité fraternelle demande beaucoup d'intelligence vis-à-vis de ses frères. Beaucoup d'intelligence, une intelligence vraie, pas diplomatique. Et ça demande beaucoup d'intelligence. Et je crois que pour lutter contre la jalousie, il faut beaucoup d'intelligence. Et vous la demandez, cette intelligence. Oui, j'insiste parce que Jean insiste. Et que Jean nous fait comprendre ça. Il insiste là-dessus. Et je vous dis, il montre, c'est facile à comprendre, à travers tout l'évangile, comment Judas a glissé. Nous avons ensuite, et Jean le souligne très nettement, l'éclatement de la miséricorde du Christ par rapport au peuple d'Israël. Un éclatement net qui nous fait comprendre le caractère universel du cœur de Jésus, la catholicité. Jean, qui est l'apôtre de l'intimité, c'est en même temps l'apôtre qui souligne avec tant de netteté ce caractère universel de la charité. Alors nous avons l'entretien avec la Samaritaine, l'entretien de Jésus avec l'officier royal de Capharnaüm, et Jésus en présence de l'infirme de la piscine de Bethsaida. C'est très curieux. Vous voyez ces trois éclatements. Samaritaine, c'est la sœur séparée. Si l'évangile était écrit aujourd'hui par un théologien de l'œcuménisme, il aurait mis « c'est la sœur séparée ». Bon, elle n'est pas très drôle comme sœur séparée, mais c'est pas étonnant qu'elle soit séparée. L'officier royal de Capharnaüm, c'est pas du tout un israélite, c'est un païen. Et c'est lui qui a le courage d'aller auprès de Jésus pour plaider la cause de son fils qui agonise. C'est le père. C'est extraordinaire, ça. Et je crois que Jean a saisi là quelque chose de très grand. Normalement, un père n'est pas médiateur et n'intercède pas. Et là, c'est un père qui intercède. Alors, ça signifie quelque chose. Et puis, l'infirme de la piscine de Bethsaïde. Ce pauvre homme, qui est un rejeté, un excommunié, un pécheur. On ne le regarde même plus. Et c'est celui-là que Jésus regarde. Ah, ça nous apprend beaucoup de choses, hein, sur le regard de Jésus. Et Jean a senti ça. Alors, regardons la Samaritaine d'abord. Jean souligne que Jésus est seul. Jean, tu comprends ça? Jean aurait sans doute aimé rester avec Jésus. C'est ça que ça veut dire. Ça, je crois. Jésus, donc fatigué du voyage, était assis à même la source. C'était environ la sixième heure. Et on souligne ensuite que les apôtres étaient partis pour l'organisation du repas. Pour la première fois, Jésus est seul dans sa vie apostolique. Tel que Jean nous le montre. Et je crois que c'est vrai, moi. Je crois que c'est vraiment la première fois où dans sa vie apostolique, Jésus a agi seul. Pour bien nous faire comprendre à la fois qu'il coopérait avec les autres, avec ses apôtres, et en même temps que sa vie apostolique, c'est la vie apostolique du Fils bien-aimé. Elle est unique. Et quand il s'agit de rencontrer certaines personnes qui sont particulièrement susceptibles, étant donné leurs blessures, étant donné leur état civil, il est mieux d'être seul avec elles. Parce que quand Jésus est entouré des apôtres, c'est assez lourd. C'est vrai, c'est assez lourd. 12 apôtres, voyez ça. Donc ils ne comprennent pas. Il y aurait eu des sourires. Pff, voyez ça. On voit très bien les apôtres découvrant subitement cette femme. Et Jésus qui parle à cette femme, ils sont déjà un petit peu inquiets quand ils voient ça, ils ne comprennent pas très bien. Et ils étaient absents. Alors évidemment, c'est la question de savoir comment Jean sait-il tout ça. C'est très simple. Ça me semble très très facile à savoir. J'aurais été à la place de Jean, j'aurais, pas sur le coup, mais le soir, demandé à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus, pour Jean, n'a pas caché. Ou Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Jésus soit seul. Et ça, c'est beau. Jean comprend ça. Ça, c'est l'apôtre contemplatif. Il comprend que dans certaines circonstances, Dieu veut qu'on agisse avec une liberté divine, un envoyé de Dieu sous le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est Jésus qui prend l'initiative. C'est aussi très grand, ça. souvent, vous verrez dans notre vie apostolique, qu'on n'a pas à prendre l'initiative. On attend plutôt. Et dans certains cas, l'Esprit Saint nous demande de prendre l'initiative. Il faut toujours faire grande attention. Il ne faut pas se tromper. Donne-moi à boire. C'est une initiative apostolique très spéciale. Jésus avoue qu'il a soif. C'est magnifique. Oui, c'est quand on fait du auto-stop. C'est tout à fait ça. J'ai besoin de toi. Je suis dans la peine. Alors l'autre qui reçoit, il fait déjà un acte de charité. Donc l'Esprit Saint est tout proche. Ne lui dites pas. Mais l'Esprit Saint est tout proche. Parce qu'il vous reçoit. Donc ça faut qu'il fait un acte de charité quand même. C'est pour ça que c'est si beau. Donne-moi à boire, pensez à ça. Quand vous levez la main pour demander. Allez. Et puis, vous êtes là en face, Jésus qui demande. Les disciples, en effet, étaient partis à la ville pour acheter les provisions. Les disciples n'auraient pas permis que Jésus demande à boire à la Samaritaine, ce serait impossible. Vous voyez, toutes les barrières, 11 barrières, 12 barrières, qui ont empêché Jésus d'être en contact direct avec cette femme. Donne-moi à boire. Alors ça, c'est l'étonnement. C'est on voit très bien que cette initiative de Jésus est une initiative de miséricorde. C'est pas pour l'eau que Jésus a demandé à boire. C'est pour réveiller le cœur de la Samaritaine qui ne savait plus demander. Quand on a un cœur qui ne sait plus demander, la grâce ne peut pas pénétrer. Et c'est pour ça que la pédagogie du Christ, et ça c'est très important, la pédagogie du Christ, c'est de toujours apprendre à demander. Et s'il apprend à la Samaritaine à demander, ce qui était très difficile, vous voyez, la Samaritaine de notre temps, d'aujourd'hui, elle aurait fredonné un air à la mode qu'elle aimait. Puis elle n'entend rien d'autre. Et puis elle est avec elle. Elle écoute. Faut qu'une attention entièrement fermée sur elle-même. Dans son cocon, comme on dirait. Elle est dans son cocon. Oh oui, absolument là. Jésus l'a fait sortir de ça. Alors on le voit très bien, l'efficacité, la parole de Jésus. Jésus a dû dire ça avec une telle force. Donne-moi à boire. Une telle supplication, c'est une vraie demande de celui qui se fait le mendiant. Comment, toi, qui es juif, tu me demandes à moi, à boire, qui suis une femme samaritaine. Une femme samaritaine, les deux. Pas seulement une femme. Une Samaritaine, la stupéfaction. Vous voyez, je crois que ça c'est très important pour comprendre ce qu'est la vraie miséricorde. Quand on voit quelqu'un être enfermé dans son problème, il faut l'éveiller, lui apprendre à demander et la faire sortir de son cauchemar. Qu'elle est devant, que Jésus est en face de cette stupéfaction de cette femme qui commence à se réveiller. Ah, Jésus dit autre chose. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'en aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Les rôles sont inversés. Et Jésus fait comprendre à cette femme que les rôles sont inversés. La mendiante, c'est elle. Et c'est lui qui est capable de l'aider. Et s'il s'est fait mendiant, voyez, il a pris la place du pécheur. Il a pris la place de celle qui aurait dû demander. de celle qui est la pauvre, de celle qui n'a plus rien. Il a pris la place et il la vit, cette place. Il vit ce rôle particulier de celle qui demande. Donc, réveiller le cœur de quelqu'un pour qu'il soit capable de demander. Ensuite, on peut faire comprendre la misère de l'autre. Ça ne se fait pas comprendre tout de suite. C'est pour ça que ce n'est pas spontané de demander quand on a péché. Quand on n'a pas péché, quand on est comme un enfant innocent, il interroge tout le temps. Un enfant n'a pas besoin de lui dire « donne-moi à boire ». Il interroge tout le temps. Mais dès que vous êtes en face d'un pécheur, dès que vous êtes en face d'un homme d'expérience, dès qu'il n'y a plus l'enfant, alors on est blasé, on n'interroge plus. On veut tout découvrir par soi. C'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Cette maladie terrible de vouloir tout découvrir par soi-même et de ne rien accepter d'un autre. Mettre un empêchement. On n'accepte que ce qu'on a découvert. Vous voyez, c'est terrible ça. Parce que je crois qu'au terme, ça supprime la foi. Parce que la foi, c'est quand même la connaissance d'un mendiant et d'un tout petit. La foi, c'est la connaissance de celui qui accepte de ne pas découvrir par lui-même et d'être dans l'incapacité de découvrir par lui-même. Il le sait. Et Jésus, par cette interrogation, donc peut rappeler ça et lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour... Alors, je comprends un peu matériellement. On continuera la fois prochaine. C'est très important de voir comment Jean nous apprend la manière dont Jésus aborde les personnes, les pécheurs, la manière dont il touche leur cœur. Alors, on ne peut pas imiter matériellement. Hein. N'ayez pas dans votre poche quelques-unes des manières dont Jésus aborde une femme, un enfant, un homme, un médecin. Bien là, vous auriez, on me demande au parloir, quel type ?